Donc ce matin, en effet, on va commencer l'étude en fait qu'on va partager sur l'évangile de Jean. On va essayer de traiter les 6 premiers chapitres de Jean avant la fin de l'année. Donc on à peu près 2 fois par mois on abordera donc un passage donc suivi de cet évangile. Et donc c'est moi qui traite ce premier passage qu'on appelle donc le prologue de Jean, qui va du verset 1 au verset 18. Et l'objectif de ce passage hein, qu'on connaît bien, en particulier le premier verset. L'objectif de ce passage, c'est de montrer comment Dieu se révèle à travers Jésus-Christ. Et ce passage, il y a toute une progression où l'évangéliste va partir de la création pour arriver jusqu'à la révélation en Christ. Alors c'est un passage qui est d'une richesse littéraire et théologique énorme en fait. Hein. La façon dont Jean a construit son texte est vraiment très très travaillée. Il y a beaucoup de parallèles qui sont faits à l'intérieur même du texte, beaucoup de parallèles qui sont faits avec des passages de l'Ancien Testament. Donc, alors je ne vais pas réussir à décrire toute la richesse littéraire de ce passage-là, non plus d'ailleurs la richesse théologique, puisque Jean va aborder les thèmes de la création, de la révélation, de l'incarnation, de ce qu'on appelle la Trinité, de la personne même de Dieu et du lien qui unit le Père et le Fils. Ça fait référence aussi, d'ailleurs, enfin, Jean fait référence aussi à toute une tradition philosophique grecque, donc qui va dépasser. Mais donc tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses qui sont présentes dans ce texte. J'en aborderai qu'une petite partie, et je vais essayer de suivre en fait le texte et de montrer comment cette révélation de Dieu progresse du début jusqu'au Christ, une espèce d'histoire du salut, d'histoire de la révélation en condensé. Et alors avant même de commencer à lire les premiers versets de Jean, je vais lire les 5 premiers versets de la Genèse, parce que vous allez voir que ce passage reprend la dynamique de la création, et on sait bien que l'Évangile est justement un récit d'une nouvelle création. Donc je lis au chapitre 1 de la Genèse, verset 1, je lis les 5 premiers versets. Je lis dans la traduction du Semeur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres, il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, puis un matin, ce fut le premier jour. Et je passe à l'évangile de Jean, et je vais lire là aussi les 5 premiers versets. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Dans ce premier passage, Jean nous parle de l'identité de Dieu et de la façon dont Dieu agit ou interagit avec les hommes et avec le monde. La première description de Dieu qu'utilise Jean, c'est la parole. Alors, en grec, donc le logos. Alors, brièvement, pour les Grecs, et j'ai pas vraiment les compétences pour arriver à étudier tout ce que le logos signifie pour la philosophie grecque, mais en gros, dans ce que j'ai compris, donc c'est Héraclite le premier qui parle de ce logos et qui en parle comme une âme du monde, comme un principe organisateur et unificateur du monde. Plus tard, ensuite, donc les Aristote et Socrate et les autres philosophes donc vont utiliser ce logos dans le sens plus de la raison. Et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que la langue française l'utilise, hein, puisque vous savez que le logos donc est utilisé souvent en suffixe pour tout ce qui concerne les sciences et donc voilà, la raison et l'intelligence et la recherche de la recherche de la réalité, de la vérité. Mais pour les Grecs, essentiellement, ce logos reste, même s'il est s'il a une dimension pour Héraclite qui est un peu divine, ça reste quand même impersonnel. Et pour Jean, on voit bien que cette parole à laquelle il fait référence tire beaucoup plus son inspiration, en fait, de la pensée juive. Donc en hébreu, la parole, c'est, alors je ne suis pas sûr de la prononciation, mais en tout cas, Memra. Et cette parole est personnifiée dans l'Ancien Testament, en particulier dans les psaumes et dans Ésaïe. Elle est personnifiée comme l'action créatrice de Dieu. Et donc, par exemple, on peut voir dans Ésaïe, on connaissait bien le passage de Ésaïe 55, comme la pluie ne revient pas sans avoir produit son effet, sans avoir arrosé la terre et fait pousser les plantes, de même, ma parole que j'envoie ne revient pas à moi sans effet. Donc déjà, dans l'Ancien Testament, cette parole est personnifiée. Une autre dimension de ce logos, de la sagesse, elle aussi est personnifiée dans l'Ancien Testament. On trouve ça dans Proverbe 8 en particulier, où la sagesse est présentée comme étant existante avec Dieu et comme étant celle qui participe à la création, comme étant le maître d'œuvre de la création. Et pour aller encore plus loin dans cette personnification de la parole et de la sagesse, on voit que l'Ancien Testament présente souvent Dieu qui interagit avec les hommes. Il est souvent appelé l'ange de l'Éternel. Alors on appelle ça des théophanies, des manifestations de Dieu. Or, l'Ancien Testament précise clairement qu'on ne peut pas voir Dieu. Et pourtant, Dieu se manifeste et cet ange de l'Éternel est régulièrement appelé. Il est dit que le nom de l'Éternel réside en lui. Il est clairement identifié comme étant Dieu lui-même. Et donc, cette personnification et cette manifestation de la présence de Dieu parmi les hommes, Jean va l'identifier donc à ce terme de la parole. Donc de celui qui manifeste Dieu devant les hommes, qui agit. Donc cette parole qui est dite, on l'a vu dans le texte de la Genèse, hein, Dieu dit, et donc la première chose qui se passe, c'est la lumière apparaît, la lumière est. Donc cette parole qui est dite devient une parole vivante, une parole disante. Une parole qui devient une personne. Et on voit que Jean va montrer que cette parole, cette action créatrice de Dieu, cette personnification de l'action créatrice de Dieu, est à la fois Dieu et à la fois avec Dieu. Et donc, il nous permet justement de rentrer dans Et on va le voir, on va le voir ensuite. Dans l'intimité de Dieu, il va nous montrer que Dieu est à la fois un et à la fois divers, à la fois plusieurs. Jean va ensuite utiliser les termes de vie et de lumière. Hein. Donc on a lu ce matin comment Jésus va s'identifier à cette vie et à cette lumière. Ces notions de vie et de lumière sont d'abord des notions relationnelles. Alors bien sûr, la vie peut être comprise comme la vie physique, hein, et la description de la création de l'homme. Dieu nous dit, il prend de la poussière, il souffle son esprit en l'homme et la vie apparaît. Et Dieu est clairement aussi le créateur de la vie, on va dire, biochimique qui nous entoure. Mais essentiellement, la vie dans la Bible, c'est d'abord une notion qui revêt la présence de Dieu. La vie, c'est être dans la présence de Dieu. Et de même, la lumière, c'est la révélation de Dieu, la manifestation de sa présence. Et la manifestation, d'ailleurs, plus de son être, de son identité. Autant la parole est une manifestation de sa volonté, autant la lumière est une manifestation de ce qu'il est. Et Yann, quand il nous a parlé de la création, nous a fait remarquer en fait que l'action créatrice de Dieu, c'est une action où finalement Dieu se retire pour laisser de la place à ce qui n'est pas lui. Et bien là, de la même façon, ce texte nous dit la lumière, lui dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est là où Dieu n'est pas. Et Dieu se manifeste là où il n'est pas, à travers justement sa lumière, hein, qui est un moyen de communication, un moyen qu'a Dieu de révéler qui il est. Entre le verset 4 et le verset 5, c'est intéressant de remarquer que le temps change. Hein. Au verset 4, donc, il dit « En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. » Et là, on peut penser à la proximité que Adam pouvait connaître avec son Créateur. Il le met au passé. Et au verset 5, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Entre ce verset 4 et ce verset 5, la chute est intervenue. Et la vie que Adam pouvait trouver en Dieu a été retirée et cachée. Et maintenant, donc la lumière brille dans les ténèbres. Et on peut faire le lien avec ce que, par exemple, Paul nous dit dans Romains, quand il nous dit que la création témoigne des œuvres de Dieu. Dieu est présent dans sa création et il se révèle aussi à travers elle. Il brille dans le monde à travers ça. Il brille aussi par la conscience qu'il nous a donnée. Et là, ce texte nous dit que les ténèbres n'a pas... Alors, il y a deux traductions qui sont différentes, en fait. Les ténèbres, soit ne l'ont pas étouffé, soit ne l'ont pas reçu, suivant comment on traduit. Donc, pas reçu, donc ça traduit le rejet que l'humanité manifeste par rapport à son Créateur. Si c'est les ténèbres ne l'ont pas étouffé, eh bien là, par contre, Jean pourrait faire référence, en fait, à tout l'Évangile où Christ va être présent dans le monde et où le monde va essayer de le rejeter et de l'étouffer. Et Jean témoigne en disant que le monde n'a pas réussi à étouffer cette lumière que Dieu a envoyée. Je vais lire la deuxième partie, donc du verset 6 au verset 13. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Dans la première partie de ce passage-là, Jean ne parle plus de la parole, mais il parle de la lumière. Et il introduit la personne de Jean-Baptiste, qui est la figure du prophète de l'Ancien Testament, celui qui est venu pour préparer le chemin à la lumière, l'a préparé d'abord chez les siens. Et ce texte nous dit donc que Jean témoigne de la lumière, mais qu'il n'est pas lui-même la lumière, mais que la véritable lumière éclaire tout homme. Jean est le témoin de la lumière, comme nous. Mais il n'est pas la lumière. Et là, il y a une première différence qui apparaît, puisque Jésus va dire de nous que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Malgré tout, la véritable lumière éclaire tout homme. Alors ce véritable, la vérité dans la Bible a un sens un peu différent de ce qu'on entend souvent justement à partir de la philosophie grecque. La vérité dans la Bible, c'est d'abord la révélation. La vérité, c'est d'abord ce qui est fidèle à ce que Dieu dit, à ce que à ce que Dieu envoie. La véritable lumière, c'est la lumière parfaite, la lumière qui reflète parfaitement ce que Dieu est. Et dans ce texte qui est un peu théologique, qui nous parle surtout de Dieu et de sa personne, j'ai trouvé un véritable encouragement dans ce verset, parce que la plupart de mes amis et dans une partie de ma famille aussi, les gens sont assez imperméables à ce que imperméables à ce que Dieu peut vouloir leur dire, imperméables à ce que Dieu peut faire dans leur vie. Et dans tout ce que je peux dire ou témoigner, j'ai l'impression que tout ça glisse un peu comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Et ce texte nous dit « La véritable lumière éclaire tout homme. » Même ceux qui nous disent ou nous font comprendre que tout ça ne les intéresse pas, que tout ça est un peu ridicule et un peu stupide, ce texte nous dit que le Christ les éclaire. Quand même, le Christ les éclaire et leur permet de comprendre, ou disons de percevoir, que qui ils sont. La lumière, c'est la révélation de Dieu. Être éclairé, c'est aussi comprendre que la lumière, ce n'est pas nous qui la produisons, qu'elle vient de l'extérieur. Comprendre aussi que nous avons été créés comme une image de Dieu, créés comme ceux qui reflètent sa lumière. Le Christ éclaire et montre que l'homme a besoin de Dieu. Moi, j'aime bien cette pensée de Pascal sur le fait qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Et je pense que ce texte nous montre cette dimension-là, que la lumière éclaire forcément l'homme. Que le Christ correspond à ce dont l'homme a besoin. Et moi, ça m'encourage à témoigner de lui. Parce que ce qu'il est va toucher ceux qui sont autour de moi, même s'ils ne s'en rendent pas compte et même si moi je ne le vois pas. Au verset 10, Jean ne va plus parler de la lumière. Et le pronom qui est utilisé, en fait, change de genre. La Bible du Semeur traduit en fait par « celui qui est la parole hein, ». Donc c'est la façon dont c'est traduit déjà dès le début. À la place de « la parole », la traduction c'est « celui qui est la parole ». La raison de ça, c'est qu'effectivement, le terme « la parole » en lui-même est un peu faible en français. Et ça fait référence effectivement à une personnification. Donc c'est pour ça que cette traduction-là est proposée. Ici au verset 10, donc Jean va commencer à parler de celui qui va identifier, qui va personnifier la lumière et la parole. Et il va nous dire que cette lumière et cette parole sont venues dans le monde, que le monde l'a rejetée. Qu'il est venu chez les siens et que les siens l'ont rejeté, même si les siens avaient été justement préparés par Jean-Baptiste, malgré cela, il a été rejeté. Et donc, on arrive à une charnière dans le texte où Jean nous parle de ceux qui l'ont accueilli, qui ont cru en lui. Qui ont eu foi, alors littéralement, qui ont eu foi en son nom. Qui ont eu foi en son nom. Alors on sait que dans la Bible, le nom représente l'identité. Mais on voit aussi que cette parole et cette lumière va avoir un nom. Ce nom n'est pas encore donné dans le texte, puisque comme je vous le disais, il y a toute une progression. Mais cette parole devient identifiable. Et il nous parle donc de cette nouvelle création. De cette nouvelle création qui va advenir dans le monde. Et il nous en parle en nous disant que ceux qui ont donc reçu la parole par la foi, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors là aussi, la traduction n'est pas toujours évidente. Semeur traduit par privilège. Dans la seconde, c'est le pouvoir de. Il s'agit en fait du statut, de l'autorité d'être enfant de Dieu. Il nous donne cette nature, cette nouvelle nature qui est d'être enfant de Dieu. Et cette nouvelle création, cette nouvelle naissance, Jean nous explique qu'elle ne peut pas être transmise par les hommes. Il ne peut pas être question d'héritage. On ne le reçoit pas de ses parents, on ne le reçoit pas de sa communauté, d'une personne qui pourrait nous introduire dans cette nouvelle création. Cette nouvelle création vient directement de Dieu. C'est de Dieu qu'ils sont nés. Et on arrive à la troisième partie où Jean va entrer dans une dimension plus personnelle et il va présenter finalement l'expérience que les hommes ont fait de cette parole identifiée et qui va s'incarner. Donc je lis à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Celui qui est la parole est devenu homme. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement : Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit : Celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été comblés de ses richesses, il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. La parole est devenue homme. Littéralement, la parole est devenue chair. Et la chair représente dans la Bible souvent la faiblesse. Paul va nous dire que Christ s'est dépouillé pour venir parmi nous. Il a vécu parmi nous, là aussi littéralement, c'est intéressant, c'est il a planté sa tente. Il a planté sa tente parmi nous. Sa tente, alors là pour le coup, on voit bien que c'est une quelque chose de temporaire, mais cette tente fait aussi référence à la tente de la rencontre, dans laquelle le tabernacle était placé, tente qui permettait au peuple de venir rencontrer Dieu. Et Christ accomplit pleinement cette mission de la rencontre. Il vient et il permet aux hommes de rencontrer Dieu pleinement. Donc la parole s'incarne, elle devient visible, et sa gloire devient visible, devient accessible aux hommes. Et quand Jean commence à utiliser, auparavant dans ce texte, on voit qu'il est question du monde, il est question des hommes en général, et là Jean commence à dire je, nous. Il fait référence à ceux qui ont côtoyé et ceux qui rencontrent personnellement le Christ. Et il dit, voilà, nous avons contemplé sa gloire. Donc il peut faire référence à la transfiguration, où Jean a vu la gloire du Fils manifestée. Mais aussi la gloire du Fils dans sa marche avec Dieu, dans sa façon d'aimer et de servir les hommes. Dans sa façon aussi d'obéir à son Père, dans sa communion avec son Père, la gloire du Christ a été manifestée aussi de cette façon-là. Et il nous est dit plénitude de grâce et de vérité. Alors, ce plénitude de grâce et de vérité est une traduction quasi directe d'un texte que j'ai lu il y a 15 jours, qui se trouve dans l'Exode, où Dieu se présente à Moïse et aux hommes. Donc je lis à partir du verset 6, donc du chapitre 34 de l'Exode. Donc l'Éternel passa devant Moïse en proclamant « L'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. » Riche en amour et en fidélité, on traduit par plénitude de grâce et de vérité. Et je continue jusqu'au verset 7, parce qu'on va voir que c'est important. « Je conserve mon amour jusqu'à la millième génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. » La suite de ce verset, où Dieu est présenté comme plein de grâce et de vérité, c'est de la suite, je ne tiens pas le coupable pour innocent, de la suite découle justement la loi de Moïse dont Jean va nous parler. Il nous dit, voilà, la loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La révélation de Dieu, qui a été commencée par Moïse à travers la loi, qui a apporté la condamnation, elle est finalement accomplie par la grâce et la vérité que Christ nous révèle. Grâce qui remplace la condamnation, vérité qui remplace les symboles contenus dans la loi, hein, les sacrifices et la pureté rituelle qui était véhiculée par la loi. Christ accomplit cela en grâce et en vérité. Et on voit d'ailleurs que c'est à ce moment-là que pour la première fois de ce texte, Jésus-Christ est nommé. La révélation a progressé depuis la création où Christ était présent, à sa manifestation dans le monde après la chute, où il était encore présent, où il brillait sur les hommes, au témoignage que les prophètes ont rendu de lui, au rejet qu'il a, que ce témoignage a suscité, à l'adhésion que certains ont manifesté, et finalement Christ manifeste pleinement la révélation de Dieu. Et je termine donc avec le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Donc, personne n'a jamais vu Dieu, pas même Moïse, puisque dans chapitre 33 de l'Exode, on voit que quand Moïse est en présence de Dieu, il ne voit que son dos. La présence de Dieu, personne n'a pu la vivre et la mesurer pleinement. Personne n'a pu voir Dieu en face. Et peut-être pas même Adam, d'ailleurs. Hein, je relisais le texte de la Genèse qui parle de la façon dont Adam interagissait avec Dieu. Et ça paraît pas évident qu'Adam ait pu voir Dieu. Et ce texte nous dit que personne ne l'a fait, à part justement le Fils. Et donc le texte nous dit « Dieu le Fils, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. » Donc l'aboutissement de cette nouvelle création et l'aboutissement même de la première, c'est la révélation de Dieu, une révélation qui surpasse cette première création où le texte, alors littéralement, je lisais ça dans la traduction de Chouraki, où il traduit par le Fils dans le sein du Père, entraîne. Et je pense que c'est bien ça. C'est le Christ nous entraîne dans l'intimité du Père. Il nous a montré justement la relation entre le Père et le Fils. Cette relation d'obéissance et de communion, cette relation d'unité en préservant justement la différence. Le Fils nous entraîne dans l'intimité du Père. Et il fait de nous donc pas seulement des témoins de ce que Dieu est à l'extérieur, mais il fait de nous des témoins de ce que Dieu est dans son intimité. Il fait de nous, oui, des témoins de la lumière de Dieu. Cette lumière vient même jusqu'à habiter en nous. Et oui, et il nous encourage à être les témoins de cette révélation, les témoins de cette parole, et les témoins de cette lumière qui éclaire tous les hommes. Je vous remercie.